La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je suis le pasteur Pascal Gonzalez de l'Église réformée évangélique de Toulouse et je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de prédication. On va donc écouter un texte et puis essayer de comprendre ce que ce texte veut nous dire. On va fêter, en tout cas pour la plupart, certains vont fêter ce week-end Pentecôte. C'est la fête des moissons, mais c'est aussi évidemment la fête de l'Esprit. Et j'espère que ce texte que nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres va nous aider à vivre cette fête de façon particulière. Peut-être que vous vous apprêtez simplement à vivre un week-end férié. Et qu'en lisant ce texte, en entendant ce texte, en réfléchissant à ce texte, vous vivrez quelque chose de plus et peut-être que vous avez envie de fêter la venue de l'Esprit. Et j'espère que ce texte pourra vous y aider. Avant de lire donc dans le livre des Actes au chapitre 4, je voudrais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans le début du livre des Actes. Luc, qui est un collaborateur, un compagnon de l'apôtre Paul, eh bien, a écrit un évangile pour raconter vraiment à quelqu'un qui ne croyait pas tout ce qui s'est passé sur la vie de Jésus. L'excellent Théophile, l'ami de Luc, va recevoir ce courrier, cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ va s'arrêter au moment de l'ascension. Donc l'évangile de Luc s'arrête au moment de l'ascension de Jésus. Jésus disparaît aux yeux de ses disciples. On dit qu'il disparaît au ciel, donc il change de lieu en tout cas, et il n'est plus visible. Et il annonce à ses disciples qu'ils doivent rester à Jérusalem parce qu'ils vont recevoir l'Esprit. Et puis Luc va écrire un second livre, le livre des Actes des Apôtres, qu'on aurait pu appeler, ou qu'on pourrait appeler le livre des Actes du Saint-Esprit, qui va raconter la suite de l'histoire. Une fois que Jésus est parti, une fois que Jésus a changé de lieu, on nous dit que Jésus s'est assis à la droite du Père, on nous dit que Jésus n'est pas devenu inactif, hein, il s'est mis à prier, à intercéder pour ceux qui croient en lui. Eh bien, une fois que Jésus a changé de statut et de lieu, il a dit aux disciples de rester à Jérusalem et qu'ils allaient recevoir l'Esprit. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que Luc va raconter donc dans le début de son livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 1 et 2, il raconte ce moment où les disciples dans la chambre haute reçoivent l'Esprit. Et alors quand ils reçoivent l'Esprit, on a peut-être la plupart, même quand on n'est pas chrétien, hein, on a cette image hein, des petites langues de feu là sur la tête et puis de ces gens qui vont sortir et parler de Dieu dans différentes langues. Mais ce qu'on doit surtout conserver, c'est qu'ils se sont mis à parler des merveilles de Dieu et les gens ont pu entendre parler des merveilles de Dieu. Voilà ce qu'a provoqué l'Esprit chez ces gens simples. Hein. Les apôtres n'étaient pas des grands intellectuels, mais ce sont des gens qui ont passé beaucoup de temps avec Jésus, qui se sont ouverts à lui, et qui ce jour-là reçoivent l'Esprit de Dieu. Donc vraiment cet Esprit va les pousser à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. En tout cas, les gens vont les entendre dans leur langue natale et ça va créer vraiment un grand remous dans la ville de Jérusalem. La ville était déjà remplie des pèlerins, hein, les Israélites qui venaient honorer leur Dieu dans le temple de Jérusalem pour la fête de Pentecôte, qui était une fête qui existait avant la venue de l'Esprit, hein, la fête des moissons. Et là, ça va vraiment créer un grand trouble. Les gens vont dire à l'apôtre Pierre, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque tu nous annonces les merveilles de Dieu et tu nous dis que Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre va dire, repentez-vous. Et puis, il va y avoir des miracles, des moments où les apôtres, on raconte ça dans le chapitre 3 du livre des Actes, les apôtres vont simplement agir de la part de Jésus. Il y a des malades qui vont être guéris, il y a des gens qui vont se tourner vers Dieu, 3000 personnes le premier jour, et ensuite, chaque jour, Dieu va ajouter à l'Église ceux qui étaient appelés. Donc c'est vraiment une période incroyable. Et on lit maintenant au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean viennent d'accomplir un miracle, et ce miracle cause du trouble hein, dans la ville et dans la foule, et notamment auprès des pharisiens qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est ressuscité. Et qui sont embêtés par la place que commencent à prendre ces hommes simples, mais qui parlent et qui agissent avec autorité. Chapitre 4, verset 1. Mais comme ils parlaient au peuple, il s'agit de Pierre et de Jean, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, fort mécontents qu'ils enseignent le peuple et annoncent par Jésus la résurrection d'entre les morts. Donc les Sadducéens, c'est un groupe juif, des croyants, des gens qui lisent le texte biblique, mais qui ne croient pas en la résurrection physique des morts. Donc de voir les apôtres, Pierre et Jean, qui enseignent cette résurrection des morts, ça les embêtait, ils sont fort mécontents. Ils mirent les mains sur eux et les firent garder jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Donc ils les firent garder, c'est qu'ils les mettent en prison. Mais beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. En général, quand on dit ça, c'est qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'on compte avec les hommes, mais il y a aussi plein de femmes qui ont cru et qui se sont associées à ce nombre. Il arriva le lendemain que leurs chefs, leurs anciens et leurs scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la lignée des principaux sacrificateurs. Ils les firent comparaître et se mirent à les questionner. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, leur répondit : Chef du peuple et ancien d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet du bien qui a été fait à un homme impotent, un homme malade, c'est suite à un miracle, et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, qu'il soit bien certain pour vous tous et pour tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme est ici devant vous plein de santé. C'est lui, Jésus, la pierre méprisée par vous, les bâtisseurs, qui est devenue la pierre maîtresse de l'angle, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas non plus sous le ciel d'autre nom qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés. » Donc là, on s'est arrêté au verset 12, mais il faut déjà entendre l'autorité et le courage de Pierre et de Jean qui répondent à des spécialistes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je suppose que oui, de témoigner de votre foi, ou tout simplement de discuter avec quelqu'un qui vous pose des questions un peu piquantes, qui est agressif avec vous, et qui a une grande culture, une grande connaissance. Les pharisiens, les sadduciens, les sacrificateurs étaient des gens, en fait, qui avaient une grande culture des écrits sacrés, une grande connaissance, des gens intelligents. Et ils posent des questions précises, et ils essaient de piéger deux hommes simples. Et l'autorité avec laquelle Pierre et Jean répondent est étonnante. Et on nous dit, voilà, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, leur répondit. Et il répond, en fait, en contre-attaquant. Nous avons fait tout ça, et cet homme a été guéri, parce que nous l'avons fait au nom de Jésus. C'est Jésus qui l'a guéri. À chaque fois, on a cette attitude des apôtres qui vont dire, c'est pas nous qui faisons des choses extraordinaires, c'est pas nous qui devons être adorés. Vous savez peut-être qu'à d'autres moments, après des miracles, l'apôtre Paul et certains de ses collaborateurs vont rencontrer la fascination ou l'adoration des gens. Il y a des gens qui vont se mettre à genoux devant eux, ils vont leur dire, non, mais relevez-vous, c'est pas nous qu'il faut adorer, c'est vraiment Jésus. Être rempli de l'Esprit-Saint, puisqu'on veut fêter Pentecôte, c'est être rempli d'un esprit d'humilité. C'est la puissance de Dieu, mais qui nous fait sans cesse reconnaître que ce que nous arrivons à faire vient de Dieu. Chaque fois qu'on nous fait un compliment, chaque fois que quelqu'un nous dit « mais c'est extraordinaire, tu as réussi à rester calme » ou « l'amour que tu as eu » ou « ta façon de réagir dans les épreuves, c'est extraordinaire, tu es quelqu'un d'extraordinaire », nous devons, parce que l'esprit de Dieu est en nous, nous devons ou nous allons répondre que c'est Dieu qui produit ça en nous, que c'est l'Esprit qui produit ça en nous, et que c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts qui a pu rendre cet homme qui était malade guéri. On continue de lire au verset 13, « Considérant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu que c'était des hommes sans instruction et du commun, il s'en étonnait, et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Mais voyant là debout avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer. » Après leur avoir ordonné de sortir du Sanhédrin, ils se concertèrent. Vous voyez que ce qui les étonne, en fait, c'est que ces gens sont sans instruction, mais ils reconnaissent des gens qui ont été avec Jésus, et ils n'ont un peu rien à leur dire, parce que voilà, l'homme est là, l'homme était malade, il a été guéri, tout le monde le constate, et ils ont besoin de se retrouver pour discuter un peu, pour voir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire à ces hommes. Verset 16, « Que devons-nous faire à ces hommes » disait-il. Car il est évident pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais en ce nom à qui que ce soit. Ils les rappelèrent, leur interdirent formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Après les avoir menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant pas comment ils pourraient les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu pour ce qui avait été fait, car l'homme sur qui avait été opérée cette miraculeuse guérison avait plus de 40 ans. Une fois relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ayant entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Ô souverain, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui a dit par la bouche de David ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines ? Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Oui, en vérité, se sont assemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, aussi bien Hérode que Ponce Pilate avec les nations et les tribus d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton dessein avaient déterminé à l'avance. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'ils se fassent des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et comme ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Vraiment, ces paroles sont incroyables, ce passage est incroyable. Et malgré les menaces, la seule décision qui va être prise par les chefs sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens, ils trouvent une seule solution, ils se disent « bon, il faut les menacer hein, », leur dire de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus parler de résurrection. Et ils espèrent qu'en les menaçant avec toute leur autorité, hein, parce qu'ils ont une autorité spirituelle reconnue, une autorité officielle, et bien ça suffira. Mais la réponse des apôtres, hein, de Pierre et de Jean, est forte parce qu'il les renvoie à l'obéissance à Dieu. Hein. « Jugez s'il est juste devant Dieu », c'est le verset 19 et 20, « de vous écouter plutôt que Dieu hein. ». Et on va retenir cette phrase. Souvent, quand les autorités vont nous demander des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, évidemment, nous devons respecter les autorités. On l'a vu pendant cette période d'épidémie. Il y a des moments où les chrétiens aussi ont dû arrêter de se rassembler en église, sont restés aussi dans leur maison. On a obéi aux autorités. Mais il y a des moments où on doit se demander, en fait, ce qu'on doit faire. Si l'obéissance demandée par les autorités nous oblige à désobéir à Dieu, eh bien, on va choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce qu'ont fait Pierre et Jean. Des gens qui ont beaucoup d'autorité, des docteurs, des spécialistes nous demandent de nous taire, mais nous ne pouvons pas nous taire. On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu, et on veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et on voit le courage de Pierre et de Jean qui vont revenir vers les leurs, c'est-à-dire vers les autres disciples, qui vont leur raconter, et qui vont louer Dieu parce que finalement, même si tous s'opposent, même si tous les puissants, on voit qu'Hérode et Pilate qui étaient des adversaires, hein, Hérode c'est le roi juif, Pilate c'est le préfet romain, eh bien ces adversaires se retrouvent contre Jésus, se retrouvent pour s'opposer, et ils s'associent même aux pharisiens, aux chefs juifs, hein, pour s'opposer contre Jésus et ses disciples. Mais malgré ça, les disciples demandent à Dieu la force d'annoncer la parole, malgré le danger, hein, malgré les menaces. Et il y a de nouveau cette manifestation de l'Esprit. Alors, il ne faut pas imaginer que chaque fois qu'on aura des difficultés, chaque fois qu'on aura besoin de courage, eh bien, la terre va trembler et puis il y a des miracles qui vont se produire. C'est vraiment une période particulière où Dieu a donné des forces, où Dieu a donné un élan. Mais évidemment, les miracles peuvent arriver quand même aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas qu'on vivra des miracles à la mesure de ce qui a été vécu au moment du livre des Actes, avec les apôtres, avec Paul. On voit que l'enseignement des apôtres s'est mis en place pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Hein. Dans le Nouveau Testament, on y reviendra souvent. Donc il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe, autant au niveau des miracles qu'au niveau de l'enseignement. Mes enseignements ou les enseignements des pasteurs seront jamais à la hauteur de l'enseignement des apôtres. Je ne vais jamais dire « vous devez suivre mon enseignement comme il faut suivre l'enseignement des apôtres ». Donc je ne peux pas imaginer que mon attitude ou mes prières susciteront autant de miracles et autant d'événements exceptionnels que ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Mais en tout cas, ce qui va rester, ce qui reste, c'est cet esprit qui nous donne du courage, cet esprit qui nous fait agir. On fête la venue de l'Esprit, on fête Pentecôte, mais je voulais en fait qu'on s'arrête et qu'on s'oriente vers ce que l'Esprit produit, vers ce que l'Esprit a produit chez ces gens. On ne peut pas se contenter de dire j'ai reçu l'Esprit, ou je me suis donné à Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, ou je veux vivre Pentecôte en honorant la venue de l'Esprit, en reconnaissant que l'Esprit est vraiment venu, et puis qu'il ne se passe rien dans notre vie, et puis que nous manquions de courage. Les apôtres, en fait, ont osé parler alors qu'ils étaient menacés. Il y a encore de nombreuses situations où les chrétiens sont menacés, où on leur interdit de parler, et ils continuent de parler, de se réunir, de lire la Bible, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils prennent des risques parce qu'ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'espère que nous aurons ce courage. Nous sommes dans un pays où nous avons le droit de parler de Dieu, nous avons le droit de prier, nous avons le droit de nous rassembler, mais évidemment, nous rencontrons aussi l'opposition. Nous rencontrons la moquerie. Il y a des gens qui voudraient limiter l'expression de la foi au domaine privé et qui nous disent « Vous n'avez pas vraiment le droit de parler de Dieu dans la rue. Les enfants n'ont pas le droit de parler de Dieu dans la cour de l'école. » Et tout cela est faux. D'abord, nous avons le droit. Et ensuite, nous avons même un devoir de le faire. Et si on nous interdit de parler de Dieu, eh bien, nous allons devoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En tout cas, on peut garder de ce passage, de ce récit du livre des Actes, ce que produit l'Esprit chez des gens simples. Et je voudrais aussi m'arrêter quelques instants là-dessus. Vous vous considérez peut-être comme des gens simples et vous vous dites « Mais moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire ce qu'ont fait les apôtres. Je n'ai pas leurs connaissances, je n'ai pas leurs compétences. Je ne vis pas à l'époque de Jésus. Je n'ai pas été avec Jésus comme ils ont été avec Jésus. » Mais je crois que tout ça, ce sont des excuses que nous nous donnons. Et ces passages nous rappellent que l'Esprit va travailler en nous, que l'Esprit va nous donner du courage et qu'il n'y a pas besoin d'être des gens très cultivés et très intelligents pour agir de la part de Dieu. Alors attention, je fais une parenthèse, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à grandir et à nous cultiver et à mieux connaître Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et tous les textes bibliques nous disent de ne pas en rester au lait spirituel. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter juste de ce qu'on a reçu enfant ou du minimum de la foi chrétienne et du minimum des doctrines chrétiennes. On veut vraiment tout dévorer, on veut manger ce pain quotidien, c'est-à-dire lire cette parole de Dieu tous les jours. On veut grandir, mais en même temps, on n'a pas besoin d'attendre d'être des super disciples ou des gens très cultivés pour annoncer la parole, pour parler de Dieu, pour témoigner et pour faire le bien. Ce que Pierre et Jean ont fait quand ils ont vu cet homme, c'est qu'ils ont prié pour lui au nom de Jésus. Jésus peut encore guérir des gens parce qu'on va simplement prier pour eux. Mais Jésus nous demande aussi, par son esprit, animé par son esprit, de faire le bien autour de nous, d'annoncer ce royaume à venir. C'est notre vie, nos paroles, notre attitude qui doivent montrer aux gens ce paradis qui vient, qui est déjà dans notre vie. Ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, soit à la Pentecôte pour le livre des Actes, soit à un moment de votre vie, vous avez ouvert votre cœur à Dieu. Eh bien, la vie éternelle a commencé à ce jour-là. Et votre vie a commencé à changer, ou votre vie a continué à changer, si vous avez grandi dans la foi chrétienne. Et votre comportement donne un avant-goût du royaume et du paradis. Notre comportement doit donner un avant-goût du royaume et du paradis. J'espère que c'est ce qui se passe. Et j'espère que si ce n'est pas le cas, eh bien, nous savons nous mettre à genoux, reconnaître nos torts, et décider à Dieu de nous remplir à nouveau de l'Esprit. Je pense que l'Esprit ne peut pas quitter quelqu'un qui s'est donné à Dieu, mais l'Esprit peut être attristé, l'Esprit peut être fragilisé dans nos vies, c'est-à-dire que nous ne l'écoutons pas, nous ne le laissons pas agir, nous l'étouffons. Et peut-être que vous avez envie aujourd'hui de laisser à nouveau l'Esprit agir en vous. Peut-être que vous avez envie de demander à Dieu de vous remplir de son esprit, de faire de votre corps l'habitation du Saint-Esprit, si vous ne l'avez jamais fait. Eh bien, comme Pierre l'a dit à ceux qui l'écoutaient le jour de la Pentecôte, maintenant repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour toutes vos fautes, donnez-lui votre vie, et vous recevrez son esprit. Il n'y aura peut-être pas de manifestation spectaculaire, vous sentirez cependant certainement une grande paix, une grande joie d'avoir donné vos vies, et votre vie ne sera plus comme avant. Je vous invite à écouter cette chanson qui est une composition qui a été créée pendant le temps de confinement avec quelques amis et qui nous invite à nous mettre à genoux et à demander pardon. Les problèmes de l'orgueil et de l'amour de l'argent ont été mis en avant, je crois, pendant cette crise. On est tous touchés par l'orgueil et tous un peu touchés par l'amour de l'argent. Que Dieu nous aide à nous mettre à genoux pour que nous puissions, par son esprit, être renouvelé et être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent.
L'orgueil se cache au plus profond de chacun d'entre nous. À cause de lui, même les plus sages deviennent des fous. Nous pensions être forts, à l'abri de tous les dangers, mais la vie nous rappelle un peu plus d'humilité. Mettons-nous à genoux, notre monde s'écroule au milieu de la foule qui pourra subsister. Mettons genoux à terre, unissons nos prières. Nous sommes beaucoup trop fiers pour pouvoir espérer. Mettons-nous à genoux, à genoux. Mettons genoux à terre en prière. Et l'amour de l'argent a vraiment tout envahi. À cause de lui, les puissants ont brisé des milliers de vies. À force de mentir pour conserver leurs privilèges, au lieu de nous servir, ils sont tombés dans leur propre piège. Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, amoureux de l'argent, rebelles et orgueilleux. À vrai dire, nous ne méritons pas mieux. Ces puissants nous ressemblent. Mettons-nous à genoux, notre monde s'écroule au milieu de la foule qui pourra subsister. Mettons genoux à terre, unissons nos prières. Nous sommes beaucoup trop fiers pour pouvoir espérer. Mettons-nous à genoux, à genoux, oh, mettons genoux à terre en prière. J'aimerais bien que plus rien ne soit comme avant après ça, mais j'ai du mal à y croire. Nous oublions à chaque fois et nous repartons dans les mêmes travers, en oubliant de nous regarder droit dans les yeux, en criant à Dieu moins une fois. Mettons-nous à genoux, notre monde s'écroule au milieu de la foule qui pourra subsister. Mettons genoux à terre, unissons nos prières. Nous sommes beaucoup trop fiers pour pouvoir espérer. Mettons-nous à genoux, à genoux, oh, mettons genoux à terre.